Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis papa.
Vous écoutez Série Land et dans cet épisode, je vous propose la suite du grand entretien avec le comédien Guillaume de Tonquédec, alias Renaud Lepic, dans la formidable série Fais pas si, fais pas ça. La série est de retour sur nos écrans pour un épisode spécial intitulé « Y aura-t-il Noël à Noël ?» C'est à voir sur France 2 le 18 décembre. Dans cette seconde partie, Guillaume de Tonquédec revient sur son personnage dans la série, mais de façon plus personnelle. Comment a-t-il fait pour façonner ce rôle? Est-ce que Renaud Lepic a déteint sur lui? Quel est le rapport entre lui et Anne Hidalgo? Quelle est sa scène préférée? Quelle est ma scène préférée dans cet épisode spécial? Et est-ce que Fais pas si, fais pas ça a une chance de revenir? Réponse avec Guillaume de Tonquédec.
Série Land, épisode 31.
Est-ce que vous vous êtes posé, vous, Guillaume de Tonquédec, des questions sur votre propre éducation et sur votre rôle de père avec vos enfants dans la vie grâce à ce personnage?
Oui, bien sûr.
Il y a un effet miroir, en fait, qui se fait.
J'ai trois enfants et pour répondre à la question, ça va avec la question d'avant, qu'est-ce que je mets de moi là-dedans? Évidemment, tous les dialogues me renvoyaient à mon expérience et à ma vie de papa. Et puis, ma vie de papa me renvoyait à « Fais pas ci, fais pas ça ». C'est pour ça que j'ai eu à cœur, moi, de le rendre le plus juste possible et le plus honnête, en fait, ce personnage. Et le plus émouvant aussi, parce que c'est très joli. Je trouve qu'un personnage qui est pris dans ses propres contradictions par amour, c'est extraordinaire à faire.
Alors, le succès de la série, alors selon moi, hein, mais je pense qu'on va être d'accord sur plusieurs points, repose évidemment sur le scénario, la qualité des dialogues, l'interprétation de toutes les comédiennes, et comédiens, les invités compris. Ils ont été nombreux avec quelques récurrents, j'en cite que quelques-uns, Isabelle Nanty, Anémone, Frédéric Bell ou encore André Manoukian. Isabelle Nanty qu'on retrouve avec plaisir aussi dans cet épisode de Noël.
Oui.
Et puis, il y a un truc qui participe au succès, mais que je ne sais pas comment qualifier, parce que pour moi, c'est une magie qui est indéfinissable. On sent que ça marche entre vous. Vous venez de nous en parler, je sais que ce n'est pas qu'une illusion, mais est-ce que vous auriez pu faire cette série avec, par exemple, une comédienne avec qui vous n'auriez pas partagé autant de connivence que vous l'avez eue avec Valérie Bonneton?
Moi, je crois que c'est l'une des clés de notre entente, c'est que quand on a switché, donc ce mot n'est pas très joli, les femmes... Évidemment, je m'entendais très bien avec Isabelle, mais je la connaissais déjà, Isabelle. Valérie, je la découvrais, je ne la connaissais pas. Et pour autant, quand on a passé les essais ensemble, c'est comme si on n'avait pas besoin de mots, quoi. On vient vraiment de la même famille de comédiens et on a créé cette famille de Fais pas ci, fais pas ça instantanément. On s'est tout de suite trouvés. En plus, on ne joue pas tout à fait dans les mêmes rythmes, elle et moi. On l'a entendu dans la première scène tout à l'heure,
fait.
Ça me frappe dans la façon de phraser, etc. Et tout d'un coup, je reprendrai la phrase parce que c'était elle, parce que c'était moi. On l'a déformé un peu en parlant de l'amitié. C'est pour ça que c'est inexplicable, c'est une alchimie. Et donc de le faire avec quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait été peut-être plus travaillé, plus scolaire. Là, on a inventé la vie, quoi. On s'est laissé déborder à chaque fois et notamment, on a laissé venir le rire et l'émotion avec Valérie. Et on a eu à cœur de le faire, mais sur chaque scène, quand je parlais d'écriture des fois... plus ou moins au niveau de ce que faisait Anne au départ, jamais avec Valérie, mais vraiment jamais, 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 on a laissé tomber une scène en se disant « bon, c'est pas grave, il y a d'autres scènes autour qui sont bien, on va... » Jamais, jamais, on s'est battu à chaque seconde de cette série pour que les scènes soient pleines de jus, de saveur et de vie, quoi.
Et alors, il y a une autre qualité aussi, cette capacité à s'inscrire dans l'actualité, cette faculté raconter la société, ce qu'on aime aussi dans Série Land quand on décrypte les séries. On va prendre un petit exemple, c'est dans la saison 6.
Dis donc, Lucas, tu sais ce que ton papa chéri a fait aujourd'hui?
Non.
Eh ben demain c'est mercredi, alors papa a posé une RTT à son travail pour passer sa journée avec toi. T'es content mon lapin?
Oui.
Ah super.
Eh ben c'est sympa, t'as jamais fait ça pour nous en tout cas.
Oh.
Non mais c'est parce que nous on est des filles, donc c'est moins intéressant, tu comprends?
Oh ben alors n'importe quoi toutes les deux, puis vous exagérez quand même, je me suis occupé de vous. Mais quand vous étiez petite, on pouvait pas prendre des journées comme ça, hein. C'était une autre époque. La mère Aubry avait pas encore foutu le bordel avec ses 35 heures.
Oui, t'es bien content de les avoir, tes RTT, non? C'est un peu hypocrite ce que tu dis là, non?
Bon, alors franchement, Charlotte, c'est d'un basique, ce genre de réflexion. Mais on en reparlera quand tu seras dans le monde du travail, parce que... voilà.
Mais t'es de gauche, en fait. Ah oh, ouais, mais carrément. Du front de gauche, même.
Quoi? Ta famille a tout perdu, tout, pendant la révolution bolchevique, et alors toi, tu te dis communiste. Ma chérie, redescends un peu sur terre.
Oh, mais c'est bon, Mélenchon, c'est pas Staline non plus.
Ouais, bah, tu connais rien, mange ta salade, va. Ouais.
J'adore cet extrait parce qu'on voit les différents niveaux de lecture, en fait. On peut le regarder comme voilà, les rapports parents-enfants, mais derrière, il y a quand même un décryptage de la société et les références à la fois politiques et historiques rajoutent du sel, en fait, à tout ça. Et je trouve que cet épisode de Noël, il regroupe toutes ces qualités qu'on vient d'aborder, Guillaume de Tonquédec, à commencer par ce regard acerbe sur la société. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait. Dans l'épisode de Noël, Fabienne et Valérie, elles sont dans un supermarché. Elles tentent de faire les courses pour le réveillon de Noël où les deux familles sont réunies et ça donne ça.
Bon, alors moi, je pense que le plus simple, Fabienne, encore, c'est qu'on prépare un menu de réveillon par personne.
Stop ! Vous êtes complètement dingue. Vous êtes dingue, les bobos, quoi. Avec vos allergies, vos flexicas, machin, c'est pas possible. Enfin, un menu par personne. Mais c'est quoi l'esprit de Noël, Valérie? C'est quoi Noël pour vous? C'est quoi Noël?
Bah, c'est quoi? C'est la fête, c'est les cadeaux.
Oh, c'est le tous ensemble, c'est le partage du pain et du vin.
Oui, enfin.
C'est quoi la scène? La scène, c'est quoi la scène?
Un fleuve?
Non, c'est Jésus, c'est les apôtres. Hein, c'est le, ils partagent tous ensemble, ils mangent tous ensemble en même temps la même chose. C'est-à-dire qu'ils mangent tous ensemble le champagne, les huîtres, le foie gras, la dinde. C'est pas un menu par personne.
Ils mangeaient du foie gras, le Christ.
Oui, oui.
Ça m'étonnerait, hein, parce que mec comme un coucou, pas un pet de graisse.
Hein. Il n'a pas eu le temps de grossir, le pauvre, un peu de respect.
On est mort de rire tous les deux.
Ah oui, non, mais c'est super.
On n'a pas besoin des images quasiment, quoi.
Ouais, ouais.
L'écriture, elle est quand même extraordinaire. Ouais. Et puis, il y a cet équilibre, en fait. On, encore une fois, c'est juste un extrait, mais on n'est pas dans la caricature. C'est-à-dire que même Fabienne, donc, qui est censée représenter les catholiques de droite, arrive à se moquer du Christ aussi.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est très juste. Et encore une fois, c'est comment on peut avoir des grands principes et puis se prendre les pieds dans le tapis quand même, malgré ces grands principes. C'est bien les principes, mais c'est des idées. Et après, encore une fois, à l'épreuve de la vie, qu'est-ce qui se passe?
Alors, on a parlé de votre duo avec Valérie Bonneton. Face à vous, un autre couple est donc formé par Isabelle Gélinas et Bruno Salomon. Et dans cet épisode de Noël, on les retrouve. Alors, c'est la famille recomposée, hein, dans laquelle les enfants, quand même, sont sous influence. Je dis influence et c'est un euphémisme de leur fille de 11 ans. C'est une Greta Thunberg en puissance.
Cette année, pour Noël, nous avons décidé de faire un Noël éthique et responsable.
Et écologique.
Exactement, ma chérie. Et écologique. Écologique, ça veut dire quoi? Pas de grands repas et pas de cadeaux là, fabriqués en Chine.
Et un seul cadeau de Noël par personne.
Oui, un seul cadeau par personne.
Ouais, sauf pour Kim.
Sauf pour Kim. Un cadeau responsable dans un emballage responsable, précédé d'un dîner...
Responsable.
D'un dîner sobre.
Sobre, ça veut dire pas d'alcool?
Bah, bien sûr que si. On pourra boire des verres biodynamiques sans sulfite qui donnent pas du tout mal à la tête.
Un dîner composé d'aliments de proximité produits dans les fermes des environs et limité en viande.
C'est la fête, on va bien s'amuser. Hein.
Ouais. Tu crois qu'on peut s'amuser quand c'est la fin du monde?
Guillaume de Tonquédec, en vrai, dites-nous, de qui vous vous sentez le plus proche dans la série? De quel personnage vous vous sentez le plus proche?
Ah bah moi c'est forcément des Le Pic, enfin de Renaud.
Oui.
C'est-à-dire que ce qui est très drôle, c'est que quand on se retrouve, déjà on a deux maisons, et les comédiens, nous on préfère notre maison Le Pic, et les Boulets préfèrent leur maison Boulet. Et quand on va tourner les gens chez les autres, on critique. On dit oui, bah, c'est vrai qu'il y a plus de place pour mettre les caméras, mais elle est un peu froide, elle est un peu humide votre maison. L'autre, oui, il y a plus de lumière, mais les pièces sont toutes petites. Hein.
Vous avez changé la décoration dans votre maison.
Alors, c'est assez marrant ça aussi, c'est un des miracles de Fais pas si, c'est que c'est des vraies maisons qui existent à Sèvres et qui ont été louées en bail de 3, 6, 9, comme on a fait 9 saisons, ça tombait bien. Et puis les maisons ont été rendues à leurs propriétaires. Donc il a fallu convaincre les propriétaires de nous recéder les maisons et d'accepter qu'ils partent déjà et qu'on enlève toute leur déco pour remettre à peu près la nôtre. Mais c'est pas tout à fait celle d'origine, mais on peut comprendre que les maisons et que les décorations évoluent au fil des années.
Oui,
mais pourtant, c'est des vraies maisons.
C'est
des vraies maisons.
Et ça donne aussi ce côté un peu réaliste aussi qu'on attend de la série. Il paraît que vos enfants, dans la vraie vie, Guillaume de Tonquédec, vous ont dit parfois « arrête de faire ton Renault Le Pic ». C'est
ouais,
vrai, ça?
Arrête de faire ton Renault, oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Là, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus d'arguments pour essayer d'apprendre des choses. C'est foutu.
Alors, je dis ça parce que, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais la force, c'est aussi le processus d'identification. Première scène dans laquelle nous sommes nombreux à nous reconnaître cette faculté donc, que les enfants ont à ne pas venir, alors que ça fait 100 fois qu'on leur dit « à table ». Et dans cet épisode de Noël, eh bien, vos enfants qui sont devenus adultes, même parents, ils vont donner une petite leçon à votre petit-fils. Eh oui, vous êtes grand-père, Guillaume de Tonquédec. Petite leçon avec Kim.
Oh, Kim. Tu vas où là, mon chéri?
Moi, je veux manger, mamie nous appelle.
Bon, on va t'expliquer. Alors
Kim, quand mamie Fabienne hurle à table, comme ça, il faut pas y aller tout de suite.
Pourquoi?
Eh bien, parce que c'est comme ça. C'est la tradition des Lubiques. Nous, on répond « on arrive !»
Mais en fait, on n'arrive pas.
Et là, elle dit
« à table, tout de suite !»
Et là, on lui répond.
On arrive tout de suite.
En fait, on attend encore 5 minutes.
10 minutes même.
Ouais.
Enfin, c'est pas vite ce que vous faites. À table.
Et là, seulement on y va.
Voilà,
ah, ça rentre.
On est d'accord que ça va rester dans l'histoire des séries françaises à table.
Oui, je pense, ouais, ouais, je pense. Et puis c'est le mécanisme est tellement joli, ça, c'est Michel Leclerc qui a imaginé ça, parce qu'au départ c'est Anne Jaffery qui avait écrit le à table, et des années après il renvoie en boomerang lui son explication de comment les enfants, il faut bien qu'ils se débrouillent avec la vie aussi, quoi, qu'ils terminent de faire leurs devoirs ou de passer leur coup de fil à leurs petits copains ou petites copines ou leurs amis avant de venir à table, quoi.
Et c'est la force aussi de cet épisode de Noël, c'est que par petites touches on peut le regarder sans avoir jamais vu Fais pas ci, fais pas ça. Il faut être bien clair avec les gens qui nous écoutent, mais qu'en même temps pour ceux qui connaissent bien la série, il y a plein de petites touches et plein de petits rappels de ce qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. Est-ce que vous l'avez vu en entier, l'épisode de Noël ?
Je l'ai vu en entier, oui. J'ai demandé à le voir avant, justement, avant de pouvoir répondre aux questions qu'on nous poserait dessus. Parce que, évidemment, je connais les scènes dans lesquelles j'ai tourné. Et je ne sais pas comment elles sont montées. Et j'ai lu les scènes déboulées, mais je ne les ai pas vues. J'étais pas présent au tournage, donc j'avais besoin de voir l'ensemble. Oui.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Je vous disais tout à l'heure qu'on ne l'aurait pas fait si on avait eu l'impression de trahir le public pour faire un épisode de plus. C'est pas du tout ça. C'est qu'on avait tous un. Il fallait que ce soit nécessaire, quoi. Et vraiment, c'est grâce à Michel Leclerc qui a écrit et qui réalise, qui a trouvé les bonnes idées. C'est vraiment là, il a mis l'ADN de la série dès les premières secondes et on le retrouve tout au long, donc il n'y a aucune trahison, bien au contraire. Et en plus, il a pris des sujets d'actualité qui n'avaient pas forcément été traités dans la série, la montée en puissance de l'écologie, la place des femmes, MeToo, le Covid, mais de façon tout sauf anxiogène, parce qu'on en a un petit peu marre, et il fait beaucoup rire avec le sujet. Et puis, le thème des sapins coupés, faut-il avoir un sapin coupé ou non ? Et figurez-vous qu'il l'avait écrit bien avant toutes les histoires qui ont traîné sur ce sujet. Donc c'est quand même très intéressant, c'était dans l'air du temps. En tout cas, Michel a trouvé cette idée bien avant qu'on en parle aux actualités.
Alors, je ne pourrais pas préciser, parce que sinon on va spoiler l'histoire du sapin de Noël.
En revanche,
je suis d'accord avec vous, Guillaume de Tonquédec, c'est que vous avez su, dans cet épisode de Noël, capter les sujets d'actualité. Et moi, il y a une scène qui m'a fait hurler de rire, que j'ai revu plusieurs fois. Ce sont les enfants qui font un tableau pour indiquer les sujets interdits pendant le repas de Noël ou les sujets autorisés, et ça donne ça.
La France insoumise.
Oh, alors là, c'est anarchiste à la mort moelle-neuve.
Interdit la France insoumise. Interdit.
Bon, allez, un autre sujet, là.
Le réchauffement climatique.
Alors, quel réchauffement climatique ?
Oh là là,
moi, je suis de l'école Claude Allègre.
Interdit le réchauffement, interdit. Voilà, hop, c'est parti, autre sujet. Le vélo à Paris.
Ah bah alors ça, pardon, parce que la mairie d'Algo... Et tu ne siffles pas, ma chérie, non. Parce que la mairie d'Algo, là, faudrait l'enfermer dans un bagne à Cayenne. Parce que franchement, des heures pour faire 200 mètres, la coupe est pleine, moi j'en peux plus. Celle-là, elle a qu'à pédaler.
Non, mais enfin, Renaud, mais n'allez pas contre le progrès.
Quel progrès ?
Il y a 100 ans, on passait du vélo à la voiture. Aujourd'hui, on passe de la voiture au vélo, mais ça, c'est un retour en arrière.
Exactement.
C'est un retour en arrière.
Attendez, vous avez bien remarqué que toutes les grandes villes de France ont des maires écolos.
Exact.
Hein, que vous le vouliez ou non, à un moment, l'époque nous donne raison.
Attention, parce que l'histoire jugera.
Bon, allez. Ouais, interdit, là, Hidalgo, c'est bon, stop.
Ah oui, c'est interdit. Marc, en gros, Hidalgo interdit. Très bien, ça.
Un autre sujet. Le retour prochain du printemps. Bon, très bien, ça, le retour prochain du printemps, moi, je valide, hein. Autorisé. Parfait, printemps. Hop, parfait. Ok. Autre chose ?
Les nazis.
Ah oui, en même temps, avec les nazis, on prend pas de risque. Hein.
Ouais, les nazis autorisés.
Attendez, vous voulez vraiment parler des nazis à Noël ? Ça va être sympa, la soirée.
Le coronavirus.
Oh non, pitié, au secours.
Ouais, ça c'est... D'ailleurs, il paraît que le coronavirus, c'est un coup des nazis. Hein.
Quoi ?
Ouais.
Cette scène est absolument jubilatoire. Est-ce que vous avez fait plusieurs prises ?
Oui, on a fait plusieurs prises. Des deux côtés, l'axe vers les parents, disons, et puis après l'axe sur les enfants. Donc, il y a eu un peu d'impro.
Ah, mais
il y a eu un peu d'impro,
mais c'était
quand même très écrit. Puis il y a eu quelques moments d'impro. C'est vrai que tout n'était pas écrit sur Hidalgo. J'en ai rajouté un petit peu parce que ça me faisait rire, parce que le sujet est tellement croustillant que forcément, j'y suis allé. Puis c'est parfaitement ce que pense le personnage de Renaud, bien sûr. Ce qui est émouvant aussi pour lui, c'est que ses propres enfants ont repris le fameux paperboard, pour ceux qui n'auraient pas vu.
Je ne vous ai pas dit.
Sur lequel il a inscrit toujours ses grands principes d'éducation. Quoi, voilà. Donc il est très ému de voir que ses enfants ont repris le paperboard.
Est-ce que ça vous a donné des idées pour votre prochain Noël qui ne va pas tarder à arriver ?
Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est très juste parce que Noël, on dit c'est souvent l'apothéose de la famille, l'année qui se... les enfants, les parents qui se retrouvent, les grands-parents. Et ce n'est pas toujours très drôle, franchement. Il y a dans des familles, même des familles où ça se passe bien, tout d'un coup, ça peut déraper. s'installer et devenir un cauchemar. Donc, c'est un peu ce qui est montré là. Est-ce que ces deux familles vont réussir à... Y aura-t-il Noël à Noël ? Est-ce qu'ils vont réussir à survivre à l'épreuve de Noël ? Très intéressant.
Est-ce que vous pensez que la série, Fais pas ci, fais pas ça, a changé quelque chose dans le paysage des séries françaises ?
France 2 a dit... Ils avaient passé un appel d'offres, comme on dit, pour une série, le fameux samedi à 19h. Et donc, Thierry Bizot et Anne Jaffery ont rendu leur copie en disant, nous, on voudrait parler de la famille, parce qu'on s'est aperçu qu'on est allé, ça leur est arrivé dans la vie, notre fille vient d'avoir 13 ans, et on est en retard à ce dîner chez nos copains, parce qu'elle nous a fait une scène pas possible. Leurs copains ont tellement rigolé quand ils leur racontaient la façon dont leur fille de 13 ans les a martyrisés, qu'ils se sont dit, mais en fait, c'est un vrai sujet, et c'est drôle, et ça peut être drôle, alors que pour eux, c'était un drame. Drame, bon, toute proportion gardée, mais ils se sont dit, il y a une belle matière là. Donc, ils ont passé cet appel d'offres, et tout d'un coup, c'est Thierry et Anne qui l'ont remporté, et surtout, ils ont rendu un épisode, et pour la suite, sur les 12, France 2 leur a donné carte blanche. C'est-à-dire qu'ils ont laissé Anne écrire ce qu'elle voulait. C'est pour ça qu'il peut y avoir des gros mots dans la bouche des parents, alors que sur certaines autres chaînes, peut-être à la même époque, on aurait dit non, les parents ne peuvent pas dire tel mot, pip, donc on ne l'aurait pas fait. Je pense que l'apport de Fais pas ci, fais pas ça, c'est une libération des auteurs. C'est-à-dire qu'on se dit, bah ouais, ça marche, parce qu'elle a écrit, elle a réussi à rendre la vie. Et si on faisait un peu plus confiance à nos bons auteurs, et les bons auteurs peuvent écrire des choses formidables s'ils ne sont pas bridés par une chaîne qui dit, mais non, à cette heure de grande écoute, un papa ne peut pas dire un gros mot à table, ou une jeune fille ne peut pas être homosexuelle, ou il y a des choses qu'on ne peut pas traiter, ou alors il faudrait le traiter différemment, ou alors... Non, ils ont laissé faire Anne, de même en deuxième saison, et de même au fil des saisons. Ils ne sont jamais intervenus de façon, comment dire, il n'y a pas eu de censure sur l'écriture. Et du coup, quand des bons auteurs peuvent s'exprimer, bah, ça donne Fais pas ci, fais pas ça. Donc je pense que, j'espère moi en tout cas, que ce sera une contribution à la libération de l'écriture en France.
Et on a souvent dit que Modern Family, la série américaine, s'était inspirée de Fais pas ci,
oui,
fais pas
ça. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est les Américains, pour une fois, ont acheté l'idée à Elephant Story, la boîte de production française. Ils ont acheté le droit de faire la même chose. Alors, ils ont rajouté un couple homosexuel.
Ouais.
Il y a trois couples.
Et je pense que vous avez moins d'affect pour cette série Modern Family que pour Fais pas ci, fais pas ça.
Moi, j'aimais moins. Moi, je trouvais ça plus caricatural, justement. Alors, c'est les familles américaines. Alors, peut-être que ça passe mieux dans le paysage américain, mais je préfère, moi, l'ADN français. Encore une fois, je peux même citer des copains ou des gens qui sont expatriés et qui, pour eux, c'était une Madeleine de Proust d'entendre ce petit sucre, ce petit bonbon au sucre français à Singapour ou à Londres, etc. Ils se refilaient les DVD sous le manteau, quoi, entre copains, quoi. Et c'est ce qu'on fait en France aussi.
Question extrêmement difficile que je vais vous poser, Guillaume de Tonquédec, qu'on vous a déjà posée. Si vous deviez retenir une scène de toute cette aventure, Fais pas ci, fais pas ça. Je sais que vous aimez beaucoup les scènes de repas où vous étiez tous ensemble, mais est-ce qu'il y a un moment précis qui symbolise un peu toute cette aventure ?
Oui, alors je reviens à cette scène dont je parlais tout à l'heure, cette balade en forêt. On s'est opposé à ce monsieur qui a reçu la couche sur son pare-brise, on s'est battu. Et mon fils, donc, qui est joué par Yanis Lespère, alors qu'il est petit à l'époque, il a 17 ans, pardon. Il n'est pas petit, tous ceux qui ont 17 ans me pardonnent pour cette parole affreuse. Mais en tout cas, il vient défendre son père. Il essaie d'attraper ce type par le dos, et évidemment le type lui fout une rouste et il tombe dans la boue. Donc son action n'est pas très utile, il ne sert pas à grand chose, mais il l'a fait. Et quand la famille rentre, couverte de boue, fatiguée, enfin libre, le père ose dire à son fils, il boive un petit coup dans la cuisine, et lui dit, je voulais te remercier parce que tu as été courageux, tu es venu me défendre, je ne sais pas si moi je l'aurais fait. Là, tout d'un coup, c'était présent dans l'écriture, mais il y a une grande émotion qui est née de cette scène, immédiatement cassée par le rire, parce que Fabienne, qui est à l'étage dessus, en montant le petit Lucas, dit évidemment, vous enlevez vos chaussures avant d'entrer dans la maison. Ils regardent, ils ont gardé évidemment leurs chaussures, ils ont mis plein de boue dans la cuisine, donc tout le monde éclate de rire. Mais en tout cas, c'est exactement ça pour moi, encore une fois, l'ADN de la série, c'est entre le rire et l'émotion, quoi. Peut-être c'est la scène emblématique qui contient toutes les autres scènes de Fais pas ci, fais pas ça pour la suite.
Cet épisode de Noël est un point final à la série, c'est sûr et certain. Attention à ce que vous allez dire, on est en train d'enregistrer.
Encore une fois, il faut que ce soit nécessaire, et c'est pour ça qu'on l'a fait, parce que c'était devenu nécessaire, qu'on avait très envie de le faire, ce qu'a rappelé Anne Holmes, patronne de la fiction de France 2. Elle a dit, il ne s'agissait pas de faire un coup ou quoi, c'est qu'on avait tous très très envie de se retrouver, quoi. Donc on l'a fait. Par contre, il ne faudrait pas que ça devienne un rendez-vous. Je crois qu'il faut que ça reste exceptionnel, que le fait que ce soit une série, c'est vraiment terminé, parce qu'on n'aurait plus le temps, et puis parce que le sujet s'est tari. Par contre, d'avoir un sujet comme ça, là, qui est Noël, qui peut être une parfaite opposition pour les deux familles, et qui permet de raconter beaucoup de choses, ça oui. Donc si on trouvait un auteur qui ait une autre très bonne idée dans un an, deux ans, trois ans, 4 ans, pourquoi pas ? Oui, bien sûr, on serait tous partants, bien sûr.
Guillaume de Tonquédec, on s'était vu il y a un peu plus d'un an. On avait évoqué la pièce de théâtre « 7 ans de réflexion » dans laquelle vous jouiez à l'époque. Et puis un très beau film, « L'esprit de famille », dans lequel vous incarniez le fils de François Berléand. C'est un film que j'avais beaucoup aimé. Et dans votre actualité du moment, vous venez de tourner un film où il est encore question de famille et encore question d'enfance, « Le temps des secrets », troisième volet de la trilogie de Pagnol sur son enfance. C'est un thème que vous aimez aborder, que vous aimez traiter en tant que comédien ?
C'est aussi
le hasard des propositions.
Alors c'est un peu le hasard. Là, c'est Christophe Baratier qui devait réaliser son film, et puis le film a été repoussé. J'allais dire merci Covid, en tout cas en ce qui me concerne, parce que c'est pas moi qui devais jouer le personnage. Et sauf que le comédien qui devait le faire n'était plus libre, et donc il est rentré en casting. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, grâce à mon agent Laurent Grégoire. Et sur la rencontre, ça s'est fait avec Christophe Baratier. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est d'abord le livre est extraordinaire de Pagnol, la langue et surtout la façon dont il parle de l'enfance et puis de la naissance du sentiment amoureux et comment ce petit Marcel Pagnol va négliger son sentiment amical pour Lily pour essayer de vivre sa première histoire d'amour avec toutes les joies et les désillusions qu'il va ressentir. C'est tellement bien écrit et tellement bien adapté par Christophe Baratier que moi j'ai été bouleversé par le scénario, et je lui en ai parlé. Je me souviens, on s'est retrouvé chez lui pendant 2 heures. Je crois que j'ai pas arrêté de parler, de lui dire aussi sur ce qu'il avait mis sur la transmission, sur le regard de ce père qui voit son fils tomber amoureux et comment ça peut être touchant, mais aussi lui rappeler sa propre vie avec la mère de Marcel et tous les bouleversements que ça va provoquer dans la famille, cette arrivée de l'amour pour ce petit garçon. C'est tellement bien que vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire oui, quoi. Bon, on a bu une bouteille de blanc en 2 heures. ça nous a peut-être aidé. Ah, pardon, je vous couperai ça à l'antenne. Mais c'était quand même important parce que c'était sur la convivialité et sur l'amour de la vie que Christophe et moi, on peut avoir, je pense.
Eh bien, j'ai un petit cadeau pour vous, Guillaume de Tonquédec. La voix de Marcel Pagnol, c'est un extrait de 1973, trouvé sur la chaîne YouTube Criterion Collection.
Qu'est-ce que c'était le cinéma pour vous ?
Pour moi, c'était la plus belle forme de l'art dramatique. On promène la caméra comme on veut. On met les scènes où l'on veut. On s'est beaucoup moqué de moi à cause de ça, et surtout à cause du grand succès de Marius et de Fanny. Un jour, j'ai vu arriver ici les jeunes gens du Cahier du cinéma et qui m'ont fait un numéro spécial, alors qu'avant, on me traitait de tout. Dans un journal qui s'appelait D'Artagnan, il y avait un article qui m'a tellement frappé que je le sais par cœur le début. De viande miteuse et de basse mine, ce combinaire chafouin n'a jamais intéressé personne que les courtiers en publicité. On dirait un tamanoir anémique que les fourmis rouges ont sucé jusqu'à l'os. Et sur la couverture de la revue, il y avait mon portrait, mais affreux, une chose épouvantable.
C'est incroyable, il connaissait la critique négative par cœur, il avait apprise par cœur.
Oui, ce qui est frappant, parce qu'il a beau dire qu'il s'en défait, ce qui est bouleversant, c'est que ça l'a quand même marqué au fer rouge, puisqu'il s'en souvient par cœur.
Est-ce que vous connaissez, vous, des critiques positives ou pas, par cœur, qui ont été faites à votre sujet ?
Oui, j'en connais, mais ce qui me frappe là chez Pagnol... C'est son amour du cinéma, son amour des mots. Et il faut savoir, c'est juste une anecdote, mais j'ai su, parce que j'ai rencontré ses descendants, Nicolas Pagnol, en travaillant sur le film, et Christophe Baratier me disait que Pagnol, souvent, il dit qu'il met la caméra où il veut, certes, mais il faisait beaucoup répéter ses comédiens, comme au théâtre, beaucoup dans les mots, dans l'amour des mots. Et après, il se mettait avec son casque audio sur les oreilles et il fermait les yeux. Et donc, les comédiens jouaient, ils ne regardaient pas forcément l'image, mais ils écoutaient. Ça, c'est extraordinaire, comme par rapport à son écriture et par rapport à la justesse du jeu, quoi. C'est dans l'écoute, quoi. Donc ça, c'est formidable. Et des critiques négatives, oui. Moi, je me souviens que je jouais au théâtre L'École des Femmes de Molière, peut-être ma pièce préférée de Molière. Il y a eu une critique dans une émission très célèbre à la télévision à l'époque, et je me suis fait, assassiner en règle, sauf que le problème, c'est que je jouais 2-3 heures après, au Théâtre Héberto, cette pièce. Donc je suis arrivé complètement défait, parce que la critique m'avait atteint, parce qu'elle était négative à mon endroit. Jacques Weber, avec qui je jouais, puis Isabelle Carré, à l'époque, sont venus me voir, ils m'ont dit « qu'est-ce que t'étais pas en forme, qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis je leur ai raconté, quoi. Jacques Weber est rentré dans une grande colère, il m'a dit « ne t'occupe pas de ça ». Et surtout Jean-Luc Boutet, qui était comédien metteur en scène de la pièce, m'a laissé, à l'époque c'était des répondeurs, n'est-ce pas, il m'a laissé un très beau message sur mon répondeur en me disant « Travaille pour toi-même, ne t'occupe pas des critiques, j'aime ce que tu fais, c'est pour ça que je t'ai choisi, c'est comme ça que je t'ai dirigé, ne change rien ». Et de ce jour-là, je me suis dit « C'est lui qui a raison, parce que on vient pour faire rêver les gens, et pourquoi se faire massacrer, ou en tout cas être sensible à ce massacre et rater cette représentation alors qu'on a vraiment quelque chose à leur proposer. Et de ce jour-là, je me suis dit, je lirai les critiques, en tout cas quand je joue au théâtre, le lendemain de la dernière, parce que c'est là qu'elles prendront leur vraie valeur. Je suis un peu vache avec les critiques.
Mais non.
Mais c'est aussi une façon de se protéger parce que c'est un art vivant et qu'on joue tous les jours. C'est ça qui est très bouleversant, parce que même dans un article élogieux, s'il y a un tout petit truc négatif, on ne va retenir que ça. C'est normal, c'est humain.
Bien sûr. Autre actualité dont j'aimerais que vous me disiez un mot, parce que c'est en cours de tournage, donc vous ne pouvez pas trop en dire, mais vous allez être un des interprètes de Germinal, grande fresque qu'on attend sur Salto, la plateforme Salto. C'est une coproduction France Télévisions et La RAI. Quel personnage vous incarnez? Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr, je joue Monsieur Enbo, qui est le directeur de la mine. Il ne va pas être tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les mineurs. Et il va essayer de. Les mineurs se révoltent. Temps essayer d'avoir de meilleures conditions de travail, tout simplement. Il faut bien voir combien c'était épouvantable, les conditions de travail à l'époque, et les progrès syndicaux, sociaux qu'on a pu faire, hein, et qui sont très louables. Et évidemment, ce personnage-là, ça va à l'encontre de ses intérêts, donc il va tout faire pour briser la grève et briser les êtres humains qu'il a en face de lui. Alors, il se trouve que lui, dans sa vie privée, il rencontre des événements assez bouleversants, et que donc, on va pouvoir avoir de l'empathie pour lui. C'est ça que j'aime bien, c'est que ce personnage qui est assez ignoble, on peut le dire, hein, du point de vue humain, on aura aussi de l'empathie pour lui, je pense, le public, parce qu'il traverse lui aussi quelque chose de très, très, très difficile humainement. Et j'ai dit à David Oureg, qui réalise, je lui ai dit « Pourquoi tu m'as pris moi ?» Il m'a dit « Parce que tu ne portes pas quelque chose de négatif sur ton visage et dans ce que tu représentes. » Donc ça m'intéressait d'avoir quelqu'un qui puisse dire des choses absolument affreuses avec une bonne tête.
C'est
donc,
une grande fresque qu'on attend impatiemment sur les écrans.
Oui, avec beaucoup de jeunes comédiens qui arrivent. Louis Pérez qui joue Lantier, notamment. Il y en a beaucoup, ce serait difficile de les citer tous, mais c'est réjouissant aussi de ce point de vue-là, et grâce à la qualité de l'adaptation qui est faite par Lilti, il s'appelle,
Julien Lilti, le
frère de Thomas Lilti, qui est réalisateur. Et il se trouve qu'on habitait la même ville quand on était petit, donc c'est assez marrant, et qui a fait une très bonne adaptation, d'abord et avant tout le texte, hein, encore une fois, et puis ensuite les comédiens que David a réunis, et l'énergie que lui, il a à fédérer tout le monde, parce qu'il y a des scènes. Je peux raconter une scène. Il y a une scène où les mineurs portent quelqu'un qui a été blessé suite à un effondrement d'une partie de la mine. Ils sont très en colère. Ils sortent évidemment tout noirs, ce qu'on appelait les gueules noires. Et le patron, donc, que je joue, arrive à cheval, lui très bien mis à cheval. Et on a tourné cette scène sous la pluie. Quand on la lit, c'est très bon. On se dit oui, c'est joli. Mais quand on la vit, c'est extraordinaire de voir toute cette foule de gueules noires qui s'écartent en voyant arriver ce cheval et le patron dessus, avec le respect qu'ils ont aussi pour le patron malgré tout. Et tout est dit, quoi. On n'a même pas besoin de mots. Et sous la pluie, avec la pluie qui fait tomber la suie et le charbon, la crasse du visage des mineurs, c'est une scène extraordinaire. C'est une succession de scènes comme ça auxquelles vous aurez droit, quoi. C'est formidable.
Mais ça donne envie. Vous saviez monter à cheval avant cette scène ?
Pas très bien, honnêtement, je préfère la main une mobilette, c'est plus sûr pour moi. Et du coup, j'ai pris des cours d'équitation, et je dois dire que je suis pas un très bon cavalier, mais j'adore ça, quoi. J'ai la trouille, mais j'adore ça.
Mais Guillaume de Tonquédec, pour résumer, cette heure que nous venons de passer, j'ai envie de dire, mais quel chemin parcouru pour vous qui, enfant, avez eu du mal avec la lecture, où l'école, les premières années à l'école ont été un calvaire, et là, vous vous réconciliez avec les mots, avec la lecture, vous vous retrouvez dans Germinal, l'adaptation de Germinal de Zola. On vous retrouve au théâtre, on vous retrouve dans les séries, on vous retrouve au cinéma. C'est incroyable quand même quand on regarde comme ça, ce parcours.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison, je ne sais pas si... Sinon, vous avez raison sur... en fait, c'est la force de l'imaginaire. Moi, c'est ça qui m'a sauvé, quoi. Parce que c'est les histoires. C'est de pouvoir m'évader, moi, enfant, très timide et en effet mauvais élève, alors que je travaillais, j'essayais de bien faire. Donc c'était la double peine, quoi. J'essayais de bien faire, en plus on m'engueulait et j'avais pas de bons résultats. Donc en fait c'est la fuite dans l'imaginaire, surtout pour un timide. On s'invente un monde, et quand ce monde correspond à celui des auteurs que vous découvrez en lisant ou en regardant des films, justement, parce que c'était plus facile pour moi de regarder un film que de lire, ou d'écouter un livre lu par Gérard Philippe notamment, et de suivre les mots sur le papier, c'était plus simple pour moi. Tout d'un coup, la force de l'imaginaire m'a dit ça vaut la peine, et je me suis mis à travailler quand j'ai appris l'orthographe et la grammaire en classe de 3e avec ma prof de français qui a fait venir une prof de théâtre. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Elle a dit il y a du théâtre au programme, on va jouer les scènes plutôt que de les apprendre par cœur ou de les lire. Le théâtre est fait pour être joué. Et donc je rends hommage à cette prof.
Ouais. Jouer, le verbe jouer, c'est ça
quelle
qui
chance,
est important.
Quelle chance, quelle chance. Je fais une boucle avec l'éducation. Quand mes enfants disent à l'école, mais ton papa il fait quoi? Là, il est parti jouer. C'est extraordinaire.
Extraordinaire, mais bien sûr.
Extraordinaire, quelle chance. Mais franchement, quelle chance, mais franchement.
Guillaume de Tonquédec, une dernière question. Il paraît que vos parents regardaient la télévision et riaient devant la télévision quand vous étiez enfant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que votre carrière, au fond, elle tient aussi à ça, à ce moment, en famille, devant l'écran?
On m'a souvent posé la question, mais comment vous est venue cette vocation, cette envie de jouer? Et j'ai plongé dans mes souvenirs, je me suis souvenu de ça, ouais. Il y avait la télé, on louait la télé chez Locatel, n'est-ce pas, à l'époque, une télé en noir et blanc, parce qu'on ne l'avait pas au début. Et donc, on a découvert moi, cette boîte assez émerveillée. Je vous parle d'un temps, les enfants là, qui avaient cette barre folle, les tablettes et les machins. Rangez-moi tout ça, essayez d'imaginer un autre monde sans téléphone et recentrez-vous un peu sur vous et sur votre famille et sur vos amis. Et voilà, soyez avec les gens plutôt que d'être ailleurs avec 10 000 coups de téléphone et je sais pas quoi, réseaux sociaux, arrêtez tout ça, retrouvez le sens de la vie.
On sent le père qui est énervé là.
Ah oui, c'est Renaud Lepic qui parle derrière moi. Vous voyez, le personnage, il est là. Et en fait, les voyant en effet touchés par ce qui se passait dans cette petite boîte, je me suis dit, mais si moi aussi je pouvais être dans la boîte et raconter des histoires à mes parents, quelle belle revanche pour un timide, quoi.
Merci infiniment, Guillaume de Tonquédec, d'avoir accepté ce grand entretien. Et puis merci de nous offrir ce dernier épisode de Fais pas ci, fais pas ça, en attendant d'autres, parce que maintenant, j'ai goûté à ce plaisir et je veux que ça redevienne comme ça. Ce sera sur France 2 et ce sera le 18 décembre. La semaine prochaine, semaine spéciale pour Sériland, il sera temps de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de cette année 2020. Quelles sont les 10 séries à retenir, à découvrir ou redécouvrir? Un classement totalement subjectif que j'aurai le plaisir de décliner en 5 épisodes mis en ligne du lundi au vendredi. Sériland est un podcast d'Europe 1 Studio produit par ma fée de Noël Adèle Ponticelli, réalisé par le père Noël de la régie Christophe Pierrot et préparé en coulisses par mes lutines et lutins Clémence Olivier, Magali Buteau et Tristan Barrault. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à commenter. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Faites-nous briller, ce sera notre plus beau cadeau de Noël. Mais attention, dans Sériland, la règle ne change pas, elle est unique, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.